avec moi en début de ce live numéro 6, Inès, qui a rejoint Brix début septembre et qui s'occupe de la filiale au Portugal pour développer Brix au Portugal et acheter plein d'immeubles là-bas.
Bonsoir à tous.
On attend toujours là 2-3 minutes, Inès, que tout le monde se connecte et arrive. Merci. On devrait être entre 500 et 1000 personnes à peu près, pour te mettre un peu la friction.
Merci de prévenir, c'est toujours ça.
Alors, comme le live sera en replay également, que c'est bientôt les fêtes de fin d'année et qu'il y a sûrement pas mal de personnes qui vont commencer le live sans aller jusqu'au bout, je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année pour ceux qui vont regarder que le début de la vidéo et une très belle fin d'année 2022 et un très bel commencement d'année 2023 non confiné, donc ce qui est top. On va pouvoir célébrer et faire la fête le 31. Donc, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à poser vos questions dans le commentaire. On va faire le tri et en retenir certains. Vous aurez l'occasion à la fin de reposer des questions et moi, j'y répondrai. Je prendrai 15 à 20 minutes pour répondre à toutes les questions, sachant que il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées cette semaine. Donc, nous, on en a listé une dizaine auxquelles je vais déjà répondre. Et donc, si c'est les mêmes, on reviendra pas dessus. Mais s'il y en a des nouvelles et qui sont pertinentes, on les prendra. Il y a certaines questions qu'on prend pas parce que c'est plutôt des questions qui sont liées à l'utilisation du service et de l'application. Et là, pour tout ce qui est fiscalité, comment j'investis, n'hésitez pas à aller directement sur notre FAQ où vous avez la réponse à toutes ces questions ou à prendre rendez-vous avec notre service clientèle. Vous pouvez également envoyer des mails à contact@brix.co. Donc, ce qui fait que là, on va plutôt parler d'actualité Brix, mais la société et les évolutions futures et quelle va être, par exemple, la roadmap produit ou notre stratégie. Ok, donc on va commencer là, il est 18h04, donc on part du principe que quasiment tout le monde est arrivé. Donc comme je le disais en introduction, on va commencer par présenter Inès qui nous a rejoint très récemment là en septembre, qui va se présenter et qui s'occupe de toute la filiale de Brix au Portugal. Et donc elle va rester avec nous une dizaine de minutes pour expliquer quelle va être notre stratégie sur le développement là-bas. Tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, Inès, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre Brix? Pourquoi tu as rejoint Brix? Et j'aurais d'autres questions à te poser.
Très bien. Eh bien, pour faire un petit topo sur un petit peu mon petit CV, j'ai démarré ma carrière dans l'immobilier donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, en fait, j'ai commencé en tant qu'auditrice financière chez PricewaterhouseCoopers. Donc, j'ai vraiment été auditrice financière de nombreuses sociétés immobilières. Donc, ça peut être des fonds immobiliers, des sociétés cotées, des sociétés de gestion de portefeuille. Donc, j'ai évolué dans ce monde-là et j'ai appris de tous les supports et les sociétés qui étaient nécessaires ou à l'investissement immobilier ou à leur gestion. Ensuite, j'ai fait un peu de structuration financière, fiscale de fonds pour une société de gestion, notamment en fonds pan-européens. Et c'est là que j'ai commencé à bosser et à vraiment l'investissement au Portugal, puisqu'en fait, j'ai géré le sous-fonds de ce fonds qui investissait au Portugal. Donc, j'étais en charge tant de l'investissement que de l'asset management au Portugal et de toute la gestion, en fait, du fonds, des rendements, de la fiscalité au Portugal de ce fonds-là. Et ensuite, en 2017, je suis devenue directrice générale d'une société de gestion de portefeuille. Donc, au début de cette aventure-là, on était 4 personnes, on gérait 30 millions d'euros. Et à mon départ, en fait, en septembre, on gérait 800 millions d'euros et on était composé de 30 personnes. En fait, pendant ces 4 années qui ont été super riches, j'ai commercialisé des fonds immobiliers qui étaient dédiés au grand public, aux professionnels et aux institutionnels. Donc, maintenant, je vais répondre à ta question numéro 2, qui était pourquoi BRICS après la société de gestion. Donc, pour moi, ça me semblait assez naturel, puisqu'en fait, j'aime le challenge et j'aime les nouvelles aventures. En fait, ça faisait un petit moment que je suivais l'évolution de BRICS. Et en fait, j'aimais vraiment cette volonté qui était de dépoussiérer le monde de l'investissement immobilier, de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc, c'était quelque chose déjà qui était qu'on essayait de faire dans mon ancienne société, mais que on trouvait pas mal de freins. Et puis, on était dans l'ancien monde. Il y a plein d'innovations qu'on voyait pas du tout et que BRICS a vu. Et du coup, c'était extrêmement intéressant de voir ça. Et du coup, je me suis dit. Mon expérience sera très utile à BRICS et moi je vais découvrir toute la technologie et ce nouveau monde que je connais pas qui sera appliqué à l'immobilier et j'aimais aussi cette nouvelle manière de communiquer, alors de toi Cédric hein, mais aussi de toutes les équipes, cette dynamique, cette communication qui était directe, transparente, décomplexée et en fait quand j'ai vu cette opportunité de monter la filiale portugaise pour BRICS. Alors, j'ai vu, bien sûr, une super occasion de partir au soleil, mais pas que, parce que je me suis dit ça va être un super beau challenge, et tant immobilier que technologique, et vraiment, on va pouvoir se remuer tous ensemble les méninges pour offrir quelque chose de super chouette et une belle innovation à ce monde qui est l'immobilier aujourd'hui. Voilà.
Merci, Inès. En plus... ce que tu dis pas, c'est que dans ta précédente société où tu avais 800 millions, donc tu étais DG et tu avais 800 millions d'euros sous gestion, c'était principalement des SCPI. Les gens connaissent assez bien les SCPI. En tout cas, ça, BRICS ressemble beaucoup au fonctionnement de la SCPI, à la différence près que BRICS va permettre une sélection des immeubles dans lesquels les investisseurs vont pouvoir investir, quand la SCPI, c'est plutôt un panier global de différentes propriétés. Si maintenant on axe plutôt sur le Portugal, comment toi tu vois l'évolution de l'immobilier au Portugal en ce moment ?
Alors pour parler de l'évolution du marché au Portugal, il faut un tout petit peu reconstructualiser, c'est-à-dire que le Portugal a beaucoup changé ces 10 dernières années et en fait enregistre aujourd'hui, depuis 2020 en tout cas, des records en termes de captation des investissements étrangers. En fait, on a quand même de grandes entreprises internationales qui ont choisi d'investir et de réinvestir au Portugal. Donc, en fait, on a des grands noms comme Google, Cisco, Microsoft, des noms aussi du secteur des énergies renouvelables, par exemple. Et en fait, en 2020, consécration pour le Portugal. En fait, pour la première fois, ils rentrent dans le top 10 du classement des pays de lieu qui captent le plus d'investissements étrangers. Donc, en fait, tout ça pour dire que c'est pas de la poudre aux yeux, c'est pas quelque chose qui va passer rapidement. En fait, le Portugal offre vraiment des piliers qui sont solides pour les investisseurs étrangers et pour son développement. Donc, en fait, les entreprises viennent chercher, bien sûr, une main-d'œuvre qualifiée qui est un peu moins chère qu'ailleurs, un pays stable et sûr et avec une bonne qualité de vie. Et en plus, on a un secteur des PME locales qui est vraiment très dynamique. Et le marché de l'emploi qui l'est également. Donc, en fait, malgré un contexte macroéconomique qui n'est pas hyper, hyper heureux en ce moment, en gros, le Portugal sort quand même du lot et on atteint des chiffres assez sympathiques puisqu'en fait, on a un PIB qui est en hausse de 6,7% en 2022, alors que le reste de l'Union européenne, en fait, en moyenne, est à 3,2%. Donc, tout ça pour dire qu'on a vraiment des piliers qui sont solides et qui permettent côté immobilier de voir venir les choses de manière sécure et plutôt sereine, parce que on voit pas arriver de bulles immobilières, parce qu'en fait, la demande reste toujours bien plus importante que l'offre. Donc en fait, l'augmentation des prix qu'on voit, alors va sûrement pas s'accélérer, mais en tout cas, on voit pas de bulles immobilières se former. Et en plus, le Portugal offre, par rapport aux autres pays de l'Union européenne, à risque comparable, en fait, des rendements qui sont légèrement supérieurs. Donc, on continue clairement à être attractif, et ce, durablement. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire ou si vous avez d'autres questions, mais en tout cas, j'ai juste voulu planter le décor pour bien qu'on voit qu'on repose sur des piliers qui sont vraiment durables et solides pour les investissements portugais à l'avenir.
Non, c'est très clair. Et moi, si je peux compléter, il y a deux choses que je vois avec mon regard extérieur, qui sont d'un, le fait que quand même, il y a une politique très attractive de la part du gouvernement portugais pour attirer massivement des expatriés, hein, que ce soit des jeunes travailleurs avec des passeports qui vont viser à encourager le télétravail depuis le Portugal. Je vois qu'on n'est pas complètement au point sur notre système. Il y a des messages de voyance qui défilent sur l'écran. Je pense qu'il va falloir qu'on s'améliore pour les prochains lives avec cet outil. Deuxièmement, ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qu'ils avaient fait pour encourager justement les retraités à aller au Portugal, notamment encourager à l'achat d'une résidence principale, ce qui faisait que en tant que retraité, tu allais être complètement défiscalisé sur les revenus liés à ta retraite. Donc ça avait massivement poussé l'immobilier vers le haut. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'on part de très loin. Donc même si l'immobilier, tu vois, sur les 10 dernières années au Portugal a pris 7% de plus-value à l'année, tu retrouves quand même dans les principales villes que sont Lisbonne et Portugal et Porto des prix qui restent encore très attractifs quand tu les compares aux villes françaises. Donc on peut se dire que la hausse n'est pas finie et qu'elle va être durable encore sur les prochaines années.
Absolument. Et ce, notamment parce que pour le moment, on n'a pas de relais pour répondre à la demande qui existe aujourd'hui, tant en résidentiel locatif, tant en résidentiel pour à l'achat, tant en bureau. En fait, aujourd'hui, dans tous ces secteurs-là, même dans le secteur d'activité, résidence étudiante, résidence senior, en fait, on n'a pas de quoi répondre à la demande.
Oui, tu as vraiment une demande qui est localisée sur quelques villes très spécifiques, ce qui fait que la demande ne se répartit pas sur des zones géographiques éparpillées. Donc, ça drive la hausse des prix sur Lisbonne, sur Porto et en Algarve, au sud du Portugal.
Absolument.
Alors, on a commencé, nous, sur une stratégie très résidentielle qui visait notamment des biens qu'on allait pouvoir louer en courte durée, notamment via du Airbnb. Et qu'on met à 100% en gestion avec des gestionnaires qui sont sur place. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on continue sur cette stratégie de biens uniquement résidentiels? Est-ce qu'il faudrait qu'on s'oriente également vers des biens commerciaux?
Alors moi, si je réfléchis en bon père de famille, si c'était mon portefeuille à moi d'actifs immobiliers, alors c'est une réponse que je donnerais pas forcément spécifiquement au Portugal, mais c'est une réponse que je donnerais pour toute personne qui investit en immobilier. C'est que plus on active de leviers en fait de diversification et de dilution, mieux c'est. Donc en fait c'est du meilleur général. Il y a la diversification des investissements par pays. Donc aujourd'hui avec BRICS on peut investir en France, au Portugal, par stratégie immobilière, par locataire. Donc c'est nous qui allons nous former notre petit portefeuille d'actifs petit à petit. Et bien entendu, en fait, diversifier son portefeuille par typologie d'actifs est aussi très important. Et en fait, ça permet de construire des portefeuilles plus résilients sur la durée, avec des rendements qui sont différents. En fait, on va optimiser le triptyque toujours rendement, risque, liquidité, avec cette dilution la plus large possible. Donc en fait, puisque comme tu le disais tout à l'heure, en fait, le Portugal offre des rendements plus élevés que les autres pays de la zone euro à risque quasiment identique ou identique, c'est dommage en fait de pas aller chercher ces points de rendement supérieurs sur d'autres secteurs d'activité. On a le marché des bureaux, comme je disais tout à l'heure, qui est en plein boom, mais en fait qui a une offre qui est clairement inférieure à la demande. On a l'hôtellerie. On a le secteur d'activité logistique qui est complètement saturé dans d'autres pays européens et qui au Portugal est hyper dynamique puisqu'en fait on a de grands ports, on est vraiment sur la mer le plus à l'ouest avec de grands terrains encore qui sont où il est possible en fait de trouver de superbes opportunités. On a aussi tout ce qui est autres actifs, donc on met dedans les résidences étudiantes, les résidences seniors qui sont très dynamiques. Et qui le resteront, puisque encore une fois, je vais me répéter, hein, mais l'offre reste inférieure à la demande. Et il faut aussi profiter des certaines spécificités du marché portugais, qui sont le fait que, par exemple, sur les commerces, on va avoir des durées fermes qui sont bien plus importantes que dans le reste de l'Europe. Donc en fait, il faut aller chiner le meilleur de tous les mondes pour avoir un portefeuille qui est le plus dynamique possible et le plus résilient possible. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'investir dans le résidentiel parce que ça reste un super investissement aujourd'hui. Donc, il faut continuer dans la voie qu'on a choisie puisqu'en fait, ce sont des actifs qui sont facilement repositionnables, qui offrent de très belles rentabilités, de beaux rendements et qui restent peu risqués. Donc, il faut continuer, mais je serai pour la diversification de toute manière.
Oui, tu vois, avant ton arrivée, on s'était donc uniquement positionné sur du résidentiel, ce qui avait fléché cette logique et cette dynamique, c'était aussi de se dire que le résidentiel, notamment à Porto, Lisbonne ou en Algarve, était vraiment un produit assez sûr parce que on savait que même en cas de retournement de marché, on n'aurait pas de problème à revendre cette typologie d'actifs. Et surtout, on voulait vraiment profiter de l'évolution du prix de l'immobilier à la hausse. Ouais. Effectivement, comme tu le dis, je pense que on pourrait se positionner sur du commercial et de la logistique. Et d'ailleurs, on va commencer à regarder ça au Portugal. Et par contre, il faut le nuancer sur une rentabilité globale parce que effectivement, les rendements, donc l'argent qu'on va récupérer des loyers peut être très intéressant. Il faudra que tu puisses analyser aussi quelle est la perspective de prise de valeur de ce type d'immobilier dans le temps au Portugal.
Mmh. Absolument.
Ok. Et donc, en dernière question, parce que je suis pas forcément certain que tout le monde soit très à l'aise avec la géographie du Portugal, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, selon toi, quelles sont les prochaines villes, ou en tout cas les villes au Portugal à regarder? Est-ce qu'il y a que les trois points que j'ai énumérés, ou est-ce qu'on pourrait regarder d'autres endroits qui seraient intéressants également?
Alors, le Portugal aujourd'hui, c'est un petit rectangle avec Porto tout en haut, Lisbonne au milieu et Algarve dans le sud. Donc, c'est là où aujourd'hui on s'est principalement tourné pour investir parce que les métropoles, enfin, alors pas pour l'Algarve, mais en tout cas, c'est celle qui, du côté résidentiel de courte durée, apportait le plus de sécurité et les meilleurs rendements. Donc, en fait, on a quand même Lisbonne et Porto qui sont clairement les villes les plus attractives du Portugal. Mais comme elles sont les plus attractives, forcément, les taux de rendement, ils sont un peu plus faibles. Donc, en fait, nous, on va chercher aussi à investir dans des zones qui sont résilientes, établies ou des zones en fort développement pour offrir des rapports et rendements, en fait, risques qui sont intéressants et qui offrent toujours de la sécurité. Et en fait, il faut se positionner soit, selon moi, sur des zones, des villes qui sont situées en périphérie de ces grands pôles, donc les périphéries de Lisbonne et Porto, qui en fait, elles sont tellement en expansion que forcément, elles font grandir tout le pôle qui est autour d'elles. Donc, en fait, on a à Lisbonne, alors on peut citer beaucoup de villes autour de Lisbonne qui bénéficient de ce dynamisme-là. On a j'arrive pas trop à parler avec l'accent français du coup sur ces villes-là, mais Sintra, Cascais, Almada. Et pour Porto, on va avoir Vila Nova de Gaia, qui en fait sont Porto et Lisbonne grandissent tellement qu'en fait elles vont petit à petit grappiller du terrain et vont dynamiser tout ce qui est autour. Donc en fait, c'est important d'investir dans ces villes-là aujourd'hui, puisqu'en fait elles vont bénéficier en fait de l'augmentation des prix étant donné qu'elles bénéficient de cette densification de Porto et Lisbonne. Et ensuite, on peut aussi s'intéresser aux villes qui, historiquement, sont très attractives et très riches avec un fort pouvoir d'achat. Donc, en fait, on va avoir des villes qui sont pas forcément autour de Porto et Lisbonne, mais qui sont nouveaux pôles très dynamiques, soit à cause d'un secteur très particulier, soit à cause du tourisme. Mais on a, par exemple, Braga, qui a un fort pouvoir d'achat, qui a une densité démographique en très, très forte croissance, qui est très dynamique. On peut aller étudier aussi des villes avec des spécificités selon des typologies d'actifs. En fait, on va avoir des villes qui vont être très dynamiques pour les résidences seniors. On va avoir, par exemple, Coimbra, qui est au milieu, vraiment, dans l'intérieur nord du Portugal, qui est connu parce que, en fait, on y trouve l'université qui est la plus ancienne de toute l'Europe et, en fait, qui souffre d'un très, très, très important déficit de logements étudiants et de logements dédiés à la courte durée. Donc, ça veut dire que on va aller vraiment chiner en fonction des spécificités de chaque ville au niveau microéconomique, quels sont les actifs pour cette ville qui vont offrir le meilleur rendement, le moins de risques et qui vont perdurer dans le temps. En gros, on sait aujourd'hui, par exemple, que sur Coimbra, même si c'est moins connu que Lisbonne ou que Porto, si on investit dans du logement à courte durée ou dans du logement étudiant, qu'on a quelque chose qui va être extrêmement résilient. Ou par exemple, l'Algarve avec le secteur des résidences seniors. Donc en fait, c'est vraiment aller chercher dans les villes chaque typologie d'actifs qui offre les meilleurs leviers de rendement et de risque pour nos investisseurs. Mais ça, c'est vraiment voilà, c'est à nous de faire ça en tant qu'experts immobiliers, d'aller vraiment chiner les dénicher les meilleurs investissements pour nos communautés.
Top. Bah écoute, merci pour cette présentation, Inès. Je pense qu'on a hâte de voir quel va être le prochain bien en financement sur MRIX, notamment au Portugal. Et
j'espère qu'il plaira à tout le monde.
Je te laisse nous surprendre par rapport à ça. Mais c'est exactement ce que t'as mentionné. Tu vois, le dernier, on était à Villanova de Gaia. Et ça touche Porto. C'est une super ville. T'as juste à traverser le pont qui lie Villanova de Gaia pour être à 5 minutes à pied du centre-ville de Porto. Donc, c'est ultra bien placé. C'est en plein développement pour ceux qui y sont déjà allés. Donc, c'est une super opportunité. Et là, je pense qu'on s'est pas trop trompé sur ce. En plus, ça a bien été négocié. Donc, il y a beaucoup de chances que ça prenne beaucoup de valeur dans les années qui arrivent. Écoute, merci beaucoup, Inès. Je vais te laisser repartir et on va revenir sur BRIX France pour expliquer tout ce qui va se passer et ce qui s'est passé dans ces derniers mois là au niveau de notre plateforme et quelles vont être les évolutions futures. Je te remercie, Inès, et on se reparle, nous, rapidement.
Ouais, merci.
À plus.
À plus.
Donc voilà, c'était Inès qui vous a présenté les perspectives au Portugal. Et ce qu'on va essayer de faire sur les prochains lives à chaque fois, c'est introduire une personne de l'équipe de BRIX en début de live pendant 15 minutes, ce qui permet de vous apporter également de la visibilité sur les différentes personnes qui composent notre équipe, les rôles qu'elles ont dans la société. Et également, c'est toujours intéressant, ça permet soit d'avoir une vision macroéconomique de l'immobilier ou même technique si c'est un développeur informaticien qui vient vous parler, ou même on fera parler demain la finance ou la stratégie RH qu'on a chez BRIX pour mettre en place une culture d'entreprise forte. Donc ça permet de diversifier et de pas parler uniquement de la plateforme, mais de vous présenter les différents membres de l'équipe. Donc alors, si on revient maintenant sur les questions qui ont été rassemblées ainsi que le thème du live de ce soir. L'idée c'est de reparler. Alors j'ai plein de sujets, donc on va essayer de tout passer, mais ça va potentiellement être dense ou long. On va voir ma capacité à dérouler les sujets. Je voulais revenir sur la levée de fonds communautaire. Pour remettre du contexte, pour rappel, on a fait rentrer une grande partie d'entre vous qui utilisait la plateforme au quotidien au travers d'une levée de fonds communautaire. Donc, vous avez investi au travers d'une holding au capital de BRIX sous forme de BSA, donc des bons de souscription en actions, dont la valorisation sera déterminée très prochainement, maintenant 18 mois ou plus tard, avec l'entrée prochaine d'un fonds d'investissement à notre capital. Donc, c'est un investissement classique qui se fait au capital d'une entreprise. La bonne nouvelle liée à ça, c'est que pour ceux qui payent des impôts, vous allez avoir 25% de votre montant investi qui va arriver en défiscalisation. Donc, vous pouvez défiscaliser une partie de votre investissement à hauteur de 25% du montant. Et question qui revenait, donc si j'en reparle, c'est qu'on a reçu beaucoup de questions de personnes qui nous demandaient s'ils allaient toucher des dividendes cette année liés à cet investissement. La réponse est non. C'est pas que c'est pas impossible, c'est que on est une start-up et l'idée c'est de maximiser votre argent investi. Et donc même si la société est rentable cette année, donc on n'a pas encore fait l'atterrissage, mais même si la société a été, donc je vais le mettre au conditionnel, était rentable cette année, l'idée c'est plutôt de réinvestir cet argent en totalité pour accélérer la vitesse de développement de notre startup et faire en sorte qu'on maximise sa valeur à la sortie. Donc, préfère réinvestir cet argent et faire en sorte que le jour où on revend la société ou le jour où vous, on a un événement de liquidité qui vous permet de sortir, bah, vous ayez fait x2, x3, x5, x10, plutôt que de vous reverser quelques pourcentages de votre investissement en dividende et de maximiser ensuite la plus-value. Donc, l'idée quand on investit en start-up, hein, c'est pas une société cotée en bourse avec une stabilité sur les 50 dernières années. L'idée, là, c'est plutôt de faire en sorte que la valeur et la valorisation de BRICS augmentent le plus rapidement possible et vous y trouverez un intérêt qui sera bien plus grand que de vous reverser des dividendes qui seraient minimes cette année. Donc, il n'y a pas de dividendes. Ça n'exclut pas que dans quelques années, si la société s'est très bien développée et qu'on soit très rentable, on verse des dividendes. De toute manière, c'est une stratégie qui est commune à l'ensemble des actionnaires. Il n'est pas possible de verser des dividendes à certains actionnaires et pas à d'autres. Donc, si un jour on a une stratégie de versement de dividendes, ça sera également vrai pour cette levée de fonds communautaire. Par rapport à notre développement actuel, on nous pose encore beaucoup la question du financement bancaire. Est-ce que j'ai du financement bancaire qui va revenir sur les immeubles? Oui, c'est le levier bancaire et nous, un cheval de bataille de notre côté pour justement maximiser la rentabilité qu'on va être capable de rendre aux investisseurs. Et ça, c'est lié également à l'instruction de notre dossier de plateforme de financement participative européenne qui est toujours en cours d'instruction au niveau de l'AMF. Donc, pour rappel, on a déposé une version zéro de notre dossier PSFP au niveau des instructeurs de l'AMF en juin. La V1, donc la version modulo, certaines nouvelles questions qui ont été traitées, a été redéposée officiellement le 14 novembre de cette année au niveau de la plateforme intranet de l'AMF. Et l'AMF est maintenant en train d'instruire le dossier. Donc, on espère avoir l'agrément début d'année 2022. Je ne sais pas si ça sera en janvier, en février, mais en tout cas, on fait en sorte que ça soit le plus rapide pour nous. Et c'est quelque chose qui est très attendu des banques, ce tampon AMF, parce que la majorité des banques nous disent « vous avez un super modèle », mais nous, vis-à-vis de notre image, on a absolument besoin, comme vous gérez de l'argent pour compte de tiers, on a absolument besoin d'avoir cet agrément AMF, et donc on réinstruira les dossiers de financement bancaire dès que vous aurez l'agrément. Donc, en tout cas, c'est une des raisons pour laquelle on a vraiment mis la priorité pour l'obtention rapide de ce passeport AMF. Également, entre autres, parce que ça va nous permettre de déployer le modèle en Europe. C'est une autorisation, un agrément qui nous permet d'aller partout en Europe. Et donc, la volonté, c'est de déployer BRICS, hein, comme je l'avais expliqué pendant la levée de fonds communautaire, de déployer BRICS dans un maximum de pays européens. Également, donc vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas, vous n'avez pas oublié que Tony Parker est également rentré dans la levée de fonds. Tony Parker qui a investi au capital de BRICS et qui devient également notre égérie pendant 5 ans, avec lequel on a fait une campagne de pub télé. Donc la campagne est prête et vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur YouTube. La raison pour laquelle elle n'est pas encore diffusée à la télé est double. Premièrement, on préfère avoir le passeport AMF pour pouvoir commencer à diffuser cette campagne télé. Et deuxièmement, la diffusion interviendra plutôt début d'année 2023, dans la mesure où entre la Coupe du Monde de foot en ce moment et la période de fête de Noël, le prix des spots de télévision a explosé. Et ça nous aurait coûté particulièrement cher de décider là, de diffuser la pub en fin d'année. Donc, c'est la raison pour laquelle on préfère attendre début d'année 2023 pour avoir des tarifs qui redeviennent plus raisonnables en termes de diffusion de pub. Ensuite, prochain point, je voulais vraiment revenir avec vous sur la roadmap produit et vous expliquer ce qui s'est passé sur la réévaluation et la nouvelle méthodologie du calcul du prix de la brique, qui est notamment liée au fait qu'on a reçu une dizaine d'expertises de revalorisation par notre expert indépendant d'immeubles qu'on avait déjà achetés. Et là, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo que j'ai faite pour expliquer ça, qui dure 50 minutes, je vais vous faire une version un peu simplifiée. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, bon, déjà la bonne nouvelle, c'est que tous les immeubles qui ont été revalorisés l'ont été sur des valorisations supérieures à notre prix d'acquisition. Donc ça, c'est bien, ça prouve qu'on n'a pas acheté sur des valeurs de marché trop hautes. En tout cas, on était dans le prix ou inférieur. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle par rapport aux personnes qui sont à l'immobilier chez Brix. Et ce qu'on a fait surtout, c'est à partir de ces évaluations, déterminer quelle va être l'évolution du prix de la brique dans le temps. Ce qui se passait jusqu'à présent, c'est qu'à partir du moment où on avait des nouvelles expertises, donc évaluations rendues par l'expert, on faisait bouger le prix de la brique d'un mois sur l'autre et on pouvait avoir des forts mouvements à la hausse du prix de la brique. Et ça avait un effet préjudiciable, que ce soit pour le vendeur de sa brique ou pour l'acheteur, parce que ça allait impacter la liquidité sur le marché secondaire. Donc ça ne changeait pas la vie de celui qui comptait conserver sa brique sur du long terme et attendre qu'on revende l'immeuble dans 7 à 10 ans. Mais par contre, celui qui décidait de récupérer son argent au travers de la marketplace allait être impacté parce que potentiellement, du fait de cette forte hausse, il allait y avoir beaucoup de vendeurs qui allaient vouloir prendre des gains. Et donc, ça crée un encombrement sur le marché secondaire. Et deuxièmement, ça offrait peu de perspectives d'évolution à la hausse dans les mois suivants pour un potentiel acquéreur qui voulait racheter cette brique sur le marché secondaire. Et donc, plutôt que d'avoir une hausse brutale du prix de la brique, on s'est dit qu'on allait lisser cette hausse sur un minima 12 mois, voire plus longtemps, pour permettre justement à un potentiel acquéreur de bénéficier également d'une hausse dans le temps de la prise de valeur de la brique et pour pas avoir des effets de palier au niveau d'un acquéreur, ce qui lui garantit que sa liquidité sera facilitée demain sur le marché secondaire. Et donc ça, c'est le premier point, lisser l'évolution du prix de la brique sur une période plus longue. Et deuxièmement, déterminer l'évolution du prix de la brique par rapport à quelque chose qui est acquis et déjà déterminé. Quand on présentait une nouvelle opportunité d'investissement jusqu'à présent, je prends par exemple un exemple au Portugal, on allait dire que compte tenu du marché portugais sur les 10 dernières années, donc sur les 10 dernières, sur le passé, donc sur ce qui s'était déjà passé, nous allions appliquer la même plus-value de l'immobilier sur le futur. Donc nos perspectives de plus-value future était basée sur un historique passé. Et ça peut être très incertain parce que si le marché immobilier, dans quelques années, croît moins vite que ce qui s'est passé par le passé, bah, potentiellement, on a des rentabilités cibles qui vont être décorrélées de ce qu'on sera réellement capable de reverser à terme à nos investisseurs. Et donc, la nouvelle politique est de dire... À partir d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on achètera un nouvel immeuble, on fera une expertise indépendante avant l'acquisition. Et c'est sur la base de cette expertise indépendante et du prix qui nous sera donné par l'évaluateur indépendant qu'on déterminera, donc sur la base de choses qui sont déjà connues, quelle va être l'évolution du prix de la brique dans les 12 prochains mois. Donc, pour prendre un exemple concret, si on négocie avec un vendeur l'acquisition de son immeuble 1 million d'euros, on fait passer un expert indépendant et si cet expert indépendant nous dit que l'immeuble vaut pas 1 million mais 1 million 50 000 euros, dans ce cas-là, il y a 50 000 euros de différence entre le prix d'acquisition et la réelle valeur marché, donc le prix auquel on pourrait potentiellement revendre cet immeuble. Et donc, ces 50 000 euros vont permettre une hausse de la brique de 5%. Donc, comme la brique commence à 10 euros, donc on sait que la brique devrait normalement valoir 10,50 euros. Et donc, ces 50 centimes ne vont pas être appliqués dès l'acquisition de l'immeuble en one shot, ils vont être lissés sur les 12 mois suivants. Donc, en fait, avant même d'investir dans l'immeuble, vous savez déjà que la brique va prendre 50 centimes de plus-value de manière régulière sur les 12 prochains mois. Et 12 mois 12 mois plus tard, on refait une nouvelle valorisation d'un expert. Le bien qui vaut maintenant 1 50 000 euros va être expertisé potentiellement 1 100 000 euros. Et là, on sait de nouveau qu'on a 50 000 euros de plus-value qu'on va pouvoir réimpacter au niveau du prix de la brique sur les 12 mois suivants. Donc, c'est une nouvelle politique qui nous paraît bien plus pertinente en termes du calcul du prix de la brique, parce qu'on part sur des choses réelles et actées et non pas sur des rentabilités cibles. Ça vous permet de déjà connaître 12 mois à l'avance quelle va être l'évolution du prix de la brique. Et d'ailleurs, on a fait l'exercice pour les 10 immeubles pour lesquels on a reçu une expertise, que vous pouvez retrouver directement sur notre application. Vous avez un fichier Excel qui vous permet de suivre tout ça en détail. Et maintenant, l'exercice des 3 prochains mois va être de récupérer l'évaluation pour l'ensemble, l'intégralité des biens immobiliers. Donc, comme ça, on va pouvoir faire l'exercice sur tous les biens. N'hésitez pas à nous contacter si c'est toujours pas clair pour vous. Mais en tout cas, on a bon espoir que ça permette une meilleure compréhension. Et ça sera là aujourd'hui, vous avez toute l'information sur un fichier Excel. D'ici janvier, vous aurez toute l'information qui sera fournie directement sur la fiche de l'immeuble, parce que on a nos développeurs informatiques qui sont en train de reprendre le design de toutes nos fiches immeubles pour apporter bien plus de lisibilité et de détails. Donc, ça sera très simple en termes de suivi sur pour la suite. D'ailleurs, en termes de roadmap produit, donc quelles vont être les prochaines évolutions qui devraient arriver, parce que on nous pose beaucoup la question, et notamment que va être fait au niveau de la marketplace, donc du marché secondaire, parce que vous êtes beaucoup à penser que la liquidité n'est pas suffisante. Donc déjà sur la roadmap produit, qu'est-ce qui doit arriver? Donc là, on est en train de bosser sur la refonte des pages immeubles. Donc justement, pour vous apporter plus de détails sur chaque immeuble, que ça soit sur la temporalité des travaux qui doivent arriver sur un immeuble après son financement, à partir de quel moment un immeuble commence à générer des loyers, etc. Donc apporter plus de détails sur les points détails sur chaque immeuble, apporter plus de détails sur la partie financière, mieux expliquer la description de chaque immeuble. Donc ça, c'est le travail qui est en cours. Après ça, on a deux éléments qui sont clés pour nous. D'un, rajouter un test d'adéquation au niveau de notre plateforme. Donc qu'est-ce que c'est? C'est avoir un test de connaissance de ces investisseurs. Vous validez au travers d'un questionnaire que vous êtes bien conscient, par exemple, qu'investir comporte des risques, qu'il faut diversifier son argent, qu'il faut l'investir sur plusieurs immeubles et pas qu'un seul. Et ce test de connaissance et d'adéquation est demandé justement par l'autorité des marchés financiers. Et c'est également un prérequis au fait qu'on puisse avoir cet agrément au travers l'AMF. Donc, ça sera la prochaine étape début d'année 2023, et ensuite on s'attaque à la marketplace, ce qui fait qu'il y aura une refonte de la marketplace pour le premier trimestre 2023. Donc si on est optimiste, ça arrivera plutôt en mars, et si on est un peu pessimiste, ça sera plutôt avril pour la marketplace. Au niveau de la liquidité, il y a quand même de la liquidité hein, sur la marketplace. C'est juste que la lisibilité n'est pas optimale. Mais on a dépassé les 11 millions d'euros depuis le début de l'année échangés sur la marketplace. Et là, on est toujours entre 600 000 et 1 million d'euros par mois d'achat au niveau de la marketplace. Donc, il y a de la liquidité. Mais effectivement, la lisibilité n'est pas très bonne, et ce n'est pas facile pour mettre des briques à la vente et en tout cas renouveler ces annonces au niveau de la marketplace. Donc ça, on en est bien conscient, et donc c'est ce qu'on va optimiser pour que ça soit plus simple pour tout le monde de pouvoir revendre. Il y avait deux choses sur lesquelles je voulais revenir également. On vous a envoyé un mail il y a à peu près un mois, notamment sur l'instauration de frais de retrait au niveau de ceux qui veulent retirer de l'argent de la plateforme BRICS, des frais de retrait de 1,20€, qui sont une refacturation des frais que nous facture Lemonway, qui est notre prestataire de paiement. Pourquoi ? Parce que Lemonway nous facture très cher. Je l'avais dit dans une vidéo précédemment, mais sur les seuls 12 derniers mois, Lemonway, c'est 800 000 € juste de frais de paiement. Et donc, qu'on prend intégralement à notre charge et qu'on ne refacture pas du tout côté utilisateur. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'on a beaucoup de frais de retrait. Donc, pour des utilisateurs qui vont juste tester notre plateforme une première fois et retirer leur argent. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'utilisateurs décident de mettre, par exemple, 200-300 €. Et pour valider que la plateforme fonctionne, ils décident de ne pas investir dans un immeuble et de retirer tout de suite ces 300 €. D'attendre de voir si les 300 € reviennent bien vers leur compte bancaire pour ensuite les remettre sur notre plateforme pour cette seconde fois les investir sur un immeuble. Donc déjà, merci de ne pas adopter ce comportement qui nous coûte de l'argent alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir ce type de comportement pour valider et tester que tout fonctionne bien. N'hésitez pas à poser la question directement sur notre page Facebook et je suis persuadé que beaucoup d'utilisateurs vous répondront qu'il est très facile de retirer de l'argent depuis notre plateforme. Et donc, ce type de comportement a quand même entraîné jusqu'à... Là, on est à 40 000 retraits à l'année sur la plateforme et donc à hauteur de 1,20 €, ça commence à faire beaucoup. Et deuxièmement, on veut également encourager le fait que quand vous avez quelques euros gagnés tous les mois en termes de dividendes, on vous encourage à attendre d'avoir au moins 10 € pour le réinvestir dans une politique d'intérêt composé pour faire grossir votre patrimoine au travers de notre plateforme. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on va refacturer ces frais de 1,20 €, mais on va offrir la gratuité pour 2 retraits à l'année. Donc, ceux qui veulent retirer leurs dividendes pourront bien le faire de manière gratuite 2 fois dans l'année. Et si vous dépassez les 2 retraits dans l'année, vous serez facturé à hauteur de 1,20 € par retrait. Et ce, peu importe le montant du retrait. Donc, même si vous retirez des grosses sommes, c'est toujours 1,20 €. Idem, dans le mail, on a parlé de compte inactif. Pourquoi ? Parce que... aujourd'hui, pareil, notre prestataire de paiement qui s'appelle Lemonway nous facture un frais de tenue de compte pour tous les comptes qui sont inactifs. Alors, qu'est-ce que c'est un compte inactif ? Un compte inactif, c'est un compte qui a déposé des documents d'identité qui ont été validés, mais qui n'a jamais mis 1 € sur notre plateforme et qui n'a jamais investi, qui n'a jamais acheté une seule brique. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, au bout de 6 mois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter votre portefeuille Lemonway de notre site Internet. Donc, vous aurez toujours un compte actif sur BRICS et vous pourrez toujours aller voir les immeubles en cours de financement. Par contre, si vous, à ce moment-là, si vous voulez investir dans un immeuble, il vous faudra repasser par l'étape de vérification de documents d'identité chez notre prestataire de paiement. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'avez jamais mis 1 € sur la plateforme et si vous n'avez jamais acheté une brique et qu'au bout de 6 mois, vous restez inactif, en tout cas, vous n'avez pas fait d'action, on vous supprimera le compte de paiement pour ne pas avoir ces frais de tenue de compte et vous serez obligé, dans le cadre d'un investissement futur, de réuploader, donc de remettre de nouveau vos documents d'identité. Donc, en tout cas, beaucoup de personnes se posaient des questions. Ah, mais moi, j'ai acheté quelques briques. Ils vont m'obliger à acheter régulièrement des briques. Non, à partir du moment où vous avez au moins dépensé 10 € pour acheter une brique, votre compte est actif et restera actif toute votre vie. Donc, vous inquiétez pas. C'est surtout pour les personnes qui sont curieuses, qui un jour ont créé un compte et qui sont reparties et qu'on revoit plus et pour lesquelles on a des frais de tenue de compte, alors même qu'elles n'ont jamais acheté une seule brique. On nous a posé pas mal de questions sur l'actualité des immeubles, notamment parce que cette semaine, vous avez vu qu'on a décidé de ne pas continuer sur le financement d'un immeuble qui était situé à Douai, dans le... Je ne vais pas bien situer Douai, mais il me semble que c'est en Normandie. Effectivement, on était à 25% du financement de l'immeuble qui faisait 1,5 million en collecte totale. Et on voyait que ça montait pas bien vite. Donc là-dessus, on a préféré stopper la collecte et rembourser l'intégralité des investisseurs. Ce qu'on a entendu au niveau des retours des utilisateurs, c'est que les gens préfèrent de plus en plus l'immobilier commercial, notamment sur la France, qui les sécurise en termes de rentabilité. Effectivement, si vous regardez notre fichier des rentabilités, les biens commerciaux sont en tout cas ceux qui n'ont jamais de problématiques de paiement et de problématiques d'impayés. Donc, c'est bien plus sûr en termes de revenus reversés. On n'a pas encore fait d'expertise sur ces biens immobiliers. On verra comment ils se comportent sur la durée au niveau de la prise de valeur. Mais en tout cas, c'était la première fois qu'on décidait d'annuler le financement d'un immeuble. Pour ceux qui avaient de l'argent, ça leur a été reversé donc vendredi. Et d'ailleurs, vous avez réinvesti en partie sur l'immeuble qui se situe à Izon, à côté de Bordeaux, à une vingtaine de minutes de Bordeaux, ou sur l'immeuble qui est bientôt complètement fini d'être financé à Belfort. Merci. Dans le live, on me dit que Douai se situe dans les Hauts-de-France. Donc, c'est pas en Normandie, excusez-moi, c'est Hauts-de-France, donc tout en haut de la France. D'ailleurs, pour continuer sur les immeubles, j'ai vu passer certaines personnes qui nous demandaient où en était l'avancement des travaux pour General Strolls, donc l'immeuble qui est situé à Belfort. Pour rappel, donc c'est un immeuble qu'on a acheté début octobre et pour lequel on a commencé à verser des dividendes, donc un geste qui n'est pas lié à des loyers mais qui est lié à un geste commercial parce qu'on s'était engagé à finir les travaux pour cet immeuble en septembre 2022. Il se trouve que ça a été bien plus long que prévu avec la mairie de Belfort pour signer cet immeuble. Donc l'immeuble, on a commencé les travaux qu'à partir de début novembre dans cet immeuble-là et les travaux sont prévus pour être définitivement finis en fin février. Donc comme il y a toujours un peu de retard sur au niveau des artisans, je vais dire plutôt mars si on veut être tranquille, ce qui fait que tant que les travaux ne sont pas finis et parce que on s'était engagé à verser des loyers assez rapidement, il y a un geste commercial. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on vous rétrocède tous les mois une partie de la commission qu'on a prise sur cet immeuble pour compenser le fait que vous ne touchez pas de loyer comme c'était prévu. On le fait également pour l'immeuble qui se situe à Strasbourg. Il y a deux immeubles pour lesquels on ne le fait pas, qui sont Toulouse. On a un immeuble à Toulouse parce que les travaux sont quasiment finis. Donc là, il reste plus qu'une semaine de travaux et il va être mis en commercialisation dans la foulée. Donc, début d'année, il y aura les premiers locataires qui rentreront au niveau de Toulouse. D'ailleurs, pour Toulouse, on se pose la question de revendre une partie des appartements parce que l'immeuble est bien placé et qu'il a été refait intégralement. Donc, ça pourrait avoir du sens en termes de plus-value de revendre une partie des appartements et de rembourser au prorata les investisseurs. Et il y a un deuxième immeuble pour lequel on ne le fait pas, qui est un immeuble qui est situé à Bordeaux. Gêneur, il me semble. J'ai peur de vous dire une bêtise sur le nom, mais oui, c'est Gêneur sur Bordeaux. Et là-dessus, la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est qu'on savait qu'on achetait particulièrement décoté cet immeuble avec des locataires où la gestion allait être compliquée, il allait falloir rentrer dans des procédures d'expulsion, ce qu'on est en train de faire. Et si vous regardez bien la fiche de l'immeuble, il avait clairement été évoqué lors du financement de cet immeuble qu'on ne pouvait pas garantir les loyers sur les deux prochaines années parce qu'on le savait que ça allait être compliqué d'expulser les locataires. Et d'ailleurs, ça faisait partie de nous, en tout cas, la politique qu'on avait eue, acheter très bas l'immeuble en sachant pertinemment qu'on n'allait pas toucher de loyer les deux premières années. Donc, les investisseurs qui sont rentrés dans cet immeuble, c'est vraiment un investissement qui va être rentable dès qu'on revendra l'immeuble. Mais en tout cas, ce n'est pas un immeuble de rendement. C'est plutôt un immeuble à plus-value à partir du moment où on a purgé cet actif et qu'on le revend. Également, là, je viens de parler donc, de la revente potentielle de certains lots ou de l'immeuble en totalité sur Toulouse. Comme je l'avais dit, c'est la logique de Brix est vraiment de porter les immeubles sur des périodes plutôt longues, 7 à 10 ans. Mais quand on juge que l'immobilier a pris suffisamment de prise de valeur et qu'il est pertinent de les revendre, on le fera pour justement maximiser la prise de valeur pour un investisseur. Et donc, il est possible qu'on revende certains immeubles pendant l'année 2023 et qu'on reverse l'intégralité des fonds directement aux investisseurs. Je ne donnerai pas de nom d'immeuble parce que je ne veux pas que ça impacte le marché secondaire. Mais en tout cas, la logique, c'est de revendre ceux qui ont pris le plus de valeur le plus rapidement possible. On nous a posé la question de chiffres qui ont évolué, notamment à la baisse sur l'immeuble Basse Rue, qui est un immeuble qui avait été financé en fin d'année 2021. Effectivement, Basse Rue, c'est un immeuble qui avait pris du temps à être financé par la banque. Les banques avaient tardé à vouloir nous accompagner sur cet immeuble-là. Et donc, on s'est retrouvé à avoir un financement bancaire qui est intervenu de manière assez tardive, notamment en juin 2022, avec des taux qui avaient déjà commencé leur remontée. Et donc, on a, malgré notre négociation, on est quand même sur des taux assez hauts parce que la banque nous a octroyé un crédit à 3,65%. Donc, ça va en faire bondir certains qui se disent « mais pour les particuliers, on est toujours en deçà de ces taux ». Sachez que pour les entreprises, les banques ont tendance à toujours majorer les taux de crédit, notamment les foncières immobilières qui achètent beaucoup d'immeubles. Là, aujourd'hui, si vous êtes une foncière et que vous voulez vous financer, les banques prêtent en ce moment à 5-6% un taux de crédit. Donc, à 3,65, on était encore bon. Et on ne s'attendait pas à avoir un taux aussi haut, ce qui fait que ça a baissé la rentabilité de 1% par rapport à ce qui était prévu. Alors là, ça reste toujours une bonne opportunité de mettre de l'effet de levier sur cet immeuble à 3,65% parce que la rentabilité de l'immeuble est supérieure. Mais effectivement, aujourd'hui, à 5-6%, on se posera deux fois la question, ou en tout cas, il faudra que l'immeuble soit très rentable pour qu'on mette de l'effet de levier sur une acquisition. Donc, ça a baissé d'un point. Alors, pour ceux qui posaient la question, est-ce que ça invalide le contrat d'investissement? Je vous laisse le reprendre. Ça ne l'invalide pas parce que justement, il est prévu, il est bien indiqué que les chiffres sont pas gravés dans le marbre et vont dépendre de ce qui est proposé par la banque en termes de taux. On ne peut pas, au préalable, dans le contrat d'investissement, fixer un taux au niveau de la banque, dans la mesure où on va voir la banque a posteriori, une fois qu'on a collecté l'argent sur notre plateforme. Donc, sinon, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est pour ça que on s'excuse pour cette rentabilité qui baisse d'un point, mais ça reste toujours plus intéressant que si on avait financé intégralement l'immeuble sans mettre du tout de crédit. Alors j'en ai passé, finalement j'ai été assez rapide, j'en ai passé là sur les points qu'on voulait énumérer, en tout cas sur les dernières actus. Je m'étais noté, avant de prendre vos questions, je m'étais noté une question ouverte là, qui nous a été posée dans la semaine, où une personne nous demandait quel était l'intérêt d'investir sur BRICS alors que, à partir de février, le livret d'épargne populaire devrait remonter à minimum à 6% d'intérêt et en plus c'est sans impôt. Et j'ai trouvé la question très intéressante parce que elle est très pertinente. Alors aujourd'hui, et là je vais vous donner aussi mon point de vue d'investisseur à titre personnel, si vous pouvez placer de l'argent sur un livret d'épargne populaire à 6% net d'impôt, que vous pouvez récupérer à tout moment, je vous encourage à le faire. Parce que effectivement, c'est assez fou comme opportunité. Je ne sais pas si ça se reverra dans les années futures, mais en tout cas, c'est un gros coup de pouce du gouvernement, ce livret d'épargne populaire. Malheureusement, il y a toujours des contraintes, il n'est pas accessible à tout le monde. Il faut être personne physique. Donc, si vous avez une société, vous ne pouvez pas le faire avec votre société. Il faut être domicilié fiscalement en France. Et surtout, il faut avoir des revenus qui sont inférieurs à 20 200 euros à l'année. Donc, ça concerne que les personnes les plus modestes ou par exemple les étudiants qui gagnent moins de 20 200 euros à l'année et c'est limité à un montant maximum de 7 700 euros. Donc, ça ne va pas concerner tout le monde, mais effectivement, je pense que ceux qui peuvent y prétendre, ça peut être intéressant. Bien plus intéressant que le livret A, parce que même si le livret A, les taux remontent, on va être à la moitié, on va plutôt être à hauteur de 2,5 à 3% sur le livret A, ce qui est bien mieux que ce qu'on a connu encore il y a encore 12 mois. On était plutôt autour de 0,8% sur le livret A. Et donc, si on compare ça à BRICS, aujourd'hui, si vous regardez notre fichier de rentabilité, la rentabilité moyenne qui est l'argent qui vous a été reversé ainsi que l'évolution du prix de la brique à la hausse, vous êtes aux alentours de 11%. Attendez, je vous dis ça tout de suite. La rentabilité totale là, actuellement sur nos immeubles sur 12 mois glissés est de 11,57%. Donc, c'est plus intéressant que le livret d'épargne populaire. C'est quasiment deux fois au-dessus, 11,57%. Sauf que sur ces 11,57%, vous en avez 7% qui est lié à la prise de valeur de la brique. Et ces 7%-là ne sont pas liquides parce que soit vous arrivez à revendre votre brique sur le marché secondaire, soit il faut attendre la revente de l'immeuble sous 7 à 10 ans. Et donc, ce qui fait que c'est quand même toujours plus intéressant d'investir sur BRICS. Et d'ailleurs, mon point, c'est de dire... l'immobilier est très intéressant sur du long terme et le sera toujours bien plus que ces livrets d'épargne. Mais par contre, c'est de l'argent que vous immobilisez sur une période de temps qui est plus longue. L'intérêt d'un livret d'épargne populaire ou d'un livret A, c'est d'avoir cette liquidité qui est instantanée et donc cet argent que vous allez pouvoir récupérer. Par contre, on voit bien que le livret d'épargne populaire, c'est 7000 euros maximum. Donc, pour ceux qui ont des liquidités plus importantes, bah, passez ces 7000 euros, revenez sur BRICS dans la mesure où la rentabilité est deux fois plus importante. Donc, je n'oppose pas les deux. Je pense que c'est très intéressant quand on peut y prétendre de mettre un peu d'argent sur le livret d'épargne populaire, un peu d'argent sur BRICS. Tout dépend de ce que vous avez en tête et de votre temporalité d'investissement. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est en fonction de votre stratégie d'investissement. Mais effectivement, c'est assez fou de voir la remontée des taux de ces livrets qui est directement liée hein, forcément à l'inflation. Et donc, c'est une bonne façon de se protéger contre l'inflation. D'ailleurs, en termes de... Là, je digresse, mais on voit également que les taux immobiliers vont avoir tendance à augmenter, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que, notamment sur l'immobilier commercial va perdre de la valeur. On est en train de négocier des nouveaux immeubles commerciaux sur des rentabilités qui sont proches des 8%, ce qui nous permettrait, nous, de reverser du 7% sur notre plateforme à l'année. Et ça, c'est très intéressant. En fait, on me pose souvent la question de savoir comment je vois cette remontée des taux au niveau de l'immobilier. Je pense que quand on est sur de l'investissement long terme, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre d'acheter des immeubles de manière très décotée. La difficulté, c'est plutôt pour la revente. Aujourd'hui, celui qui veut revendre, il n'est pas forcément dans une position de force. C'est plutôt les acheteurs qui vont être privilégiés. Donc, nous, ça va nous permettre de vous proposer des très belles opportunités. Mais par contre, c'est des opportunités qu'on ne revendra pas sous 12 mois et qu'on va conserver sur du long terme. Mais en tout cas, ça nous permet de nous positionner sur des actifs qu'on va payer moins cher aujourd'hui que ce qu'on aurait acheté, ce qu'on les aurait achetés il y a 6 mois. Et deuxièmement, parce qu'il y a de l'inflation, tous les loyers vont être réindexés à la hausse. Et donc, idem, les rentabilités sur lesquelles vous avez investi initialement vont à terme augmenter liées à cette réindexation des loyers. De mon côté, j'ai passé en revue tous les points, donc je vais regarder là s'il y a des questions qui semblent pertinentes et je vais y répondre une par une. Alors, ça, je me répète quasiment sur tous les lives, la connexion avec Finari est-elle prévue ? Finari, c'est une application qui vous permet de gérer tous vos investissements et d'avoir une vue en temps réel sur vos investissements. Sachez que certains utilisateurs qui utilisent Finari et Brix nous disent qu'en fait, il est très facile de déjà rentrer à la main ces achats de Brix dans Finari sans avoir une connexion automatisée. La connexion automatisée chez nous va passer par la mise en place d'une API qui nous permettra aussi demain de développer l'app mobile. Et donc, là-dessus, on a préféré remettre au carré toute la page immeuble, valider tout le modèle de données chez nous. Donc, il y a eu une grosse refonte que vous n'avez pas vue parce que ça n'a rien changé au niveau de la plateforme, mais en tout cas, on a refondu tout le modèle de données au niveau de notre base de données, ce qui nous permet d'être plus serein pour les développements futurs. Et donc, avant de reprendre toute notre API, et de faire des connexions soit avec Finari, soit avec le développement d'une app mobile chez nous. On s'est dit qu'on avait des sujets plus prioritaires pour rendre vraiment très facile l'expérience utilisateur sur notre plateforme, à commencer par la place de marché. Donc, c'est la raison pour laquelle on a bien en tête Finari, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Donc là, on me repose la question à quand les loyers sur l'immeuble Capitaine Ferrand. J'y ai répondu il y a 5 minutes, donc je vous laisserai revoir le live. Quand est-ce qu'arrive le prochain bien sur notre plateforme ? Là-dessus, c'est pas faute de chercher. Il y avait 2 salons de l'immobilier en plus très importants sur le mois de décembre, donc on a pris plein de contacts. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une position un peu particulière. Si vous suivez l'activité un peu immobilière, on essaye, nous, de se focaliser uniquement sur des biens commerciaux parce qu'on voit que c'est ceux qui offrent la rentabilité la plus sécure. Et donc, on préfère sécuriser les loyers qu'on va être capable de vous rembourser. Et l'immobilier commercial, donc déjà, ça se trouve pas sur le bon coin, donc c'est un peu plus dur à chercher. Et on pense que on est dans une situation économique où il faut très très bien négocier les prix d'acquisition et pas payer l'immobilier trop cher. Mais d'un autre côté, les SCPI, donc qui sont des gros fonds d'investissement, n'ont jamais autant collecté que cette année. Donc malgré le fait que les taux augmentent et que l'immobilier devrait normalement baisser, notamment sur du commercial, comme les SCPI doivent répartir cet argent. C'est toujours un bras de fer avec les vendeurs pour négocier au prix le plus juste. Donc là, on a quelques biens immobiliers sur lesquels on aimerait se positionner, mais il y a encore des discussions sur le prix d'acquisition. Et dès qu'on a une sortie positive là-dessus et qu'on trouve un terrain d'entente, on mettra rapidement les biens immobiliers sur la plateforme pour essayer. En tout cas, notre volonté, c'est de proposer très rapidement un prochain bien. Mais je ne vais pas m'avancer sur la date. Attendez, je suis en train de reprendre les questions. Est-ce qu'il est prévu un onglet rentabilité moyenne de nos investissements? Effectivement, de manière plus globale, on pense qu'on pourrait faire une page statistique au niveau du compte utilisateur qui serait bien plus détaillée. Donc, on a bien le point en tête et on va y travailler dès qu'on aura un peu de bande passante. Donc il y a beaucoup de sujets sur la marketplace. Je vais pas y répondre au niveau de la marketplace parce que effectivement on sait qu'elle peut être améliorée au niveau de l'expérience utilisateur. Il y a malgré ce que vous pensez, il y a quand même beaucoup de liquidités au niveau de la marketplace, mais ça demande à ceux qui veulent revendre des briques d'annuler leur offre pour les remettre et pour essayer de toujours remonter en tête. Donc ça on sait que c'est pas optimal et donc c'est la raison pour laquelle on va vraiment y retravailler. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui arrivera en début d'année prochaine parce que la priorité, c'était d'améliorer la lisibilité et le détail sur la fiche immeuble. Et ça va intervenir plutôt en janvier. Ok, je vois que j'ai quand même beaucoup de questions sur les prochains développements qui sont prévus. Donc, il y a quand même beaucoup de questions qui reviennent en boucle. Pascal qui me pose la question, un mot sur la performance énergétique des biens. Là-dessus, effectivement, nous, on l'a en ligne de mire. Donc, les immeubles qu'on est en train de rénover, on fait en sorte qu'ils correspondent en tout cas, à une performance énergétique qui est convenable pour ne pas être pénalisé le jour où la loi rentre en vigueur. Je pense par exemple, je crois que les notes G ne pourront plus être louées sous 2024 ou 2025. Donc, c'est des choses qu'on a bien en tête. Et tous les immeubles pour lesquels on avait des mauvais diagnostics de performance énergétique, il y avait des réserves de travaux suffisantes qui avaient été provisionnées. Donc, c'est des travaux qui seront faits au fil de l'eau. Ok, on nous pose la question également de savoir s'il pourrait y avoir un peu plus de lisibilité sur les lots vacants ou les lots impayés. Là-dessus, c'est intéressant. Je pensais qu'on offrait suffisamment de détails par rapport à ça, notamment dans les actualités. On est en train d'améliorer la fiche immeuble, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais on va voir à potentiellement apporter encore plus d'informations pour que vous ayez la vue immédiate et surtout les raisons pour lesquelles il y a soit de la vacance, soit des impayés. En général, et pour ceux qui l'ont déjà constaté, quand il y a des impayés un mois qu'on récupère le mois suivant, bah les loyers le mois suivant, ou en tout cas les dividendes sont plus importants parce que on les compense le mois suivant. Donc c'est la raison pour laquelle si vous regardez notamment le tableau, il se peut que des fois il y a des immeubles pour lesquels on reverse bien plus d'argent que ce qui avait été initialement prévu. On a des immeubles où on est à 120-125% par rapport à l'objectif initial. Ok, bah, écoutez, ça fait 1h10. En tout cas, je vous remercie tous pour être restés en ligne. Je vais pas prendre plus de questions parce que j'ai l'impression que les questions se répètent ou alors elles sont vraiment liées à un immeuble en particulier et ça serait trop long pour moi de passer tous les immeubles en revue. Merci encore. Je vous souhaite en tout cas des très bonnes fêtes de fin d'année et une très belle année 2023. Merci pour la confiance. Et comme je vous l'ai expliqué en début de live, ce qu'on va faire sur les prochains lives, c'est à chaque fois, les 15 premières minutes, faire intervenir une personne de l'équipe pour justement vous amener une réflexion autre que uniquement ce qui s'est passé par le passé et ce qui s'est passé dans le futur. Et dernier point, une petite surprise, on va lancer un podcast, donc les Brickstock, un podcast qui sera dédié à l'investissement immobilier de manière très générale. Donc on va essayer de parler d'immobilier, mais de tout type d'immobilier, et pas forcément d'investissement au travers de notre plateforme, pour justement essayer d'éveiller à l'investissement et à la création de patrimoine le plus tôt possible. Et on espère avoir plein d'intervenants très inspirants là-dessus. Et donc la bonne surprise, c'est que le premier podcast sera avec Tony Parker, donc notre égérie, qui nous parlera de ses différents investissements immobiliers qui sont très, très diversifiés. Donc ça sera intéressant, même si on ne va pas forcément se comparer à lui en termes d'investissement immobilier et se projeter par rapport à lui. Ça sera intéressant d'avoir cette vision de l'immobilier au travers son prisme, parce qu'on le connaît surtout pour le basket et très peu pour l'immobilier, alors qu'il est très actif dans l'immobilier. Merci beaucoup, très bonne fête et à très bientôt. Salut.